Radio Okapi.
À la une de cette édition d'information, le gouvernement souminois se présente tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour la défense de son programme d'action en vue de son investiture. Dans ce journal, notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale nous fait vivre l'ambiance qui y prévaut actuellement. Au moins 40 écoles primaires et secondaires ne fonctionnent plus depuis 8 jours dans le groupement Bassoamadiwe au Nord Kivu. C'est après les dernières attaques attribuées aux ADF dans la zone qui ont occasionné la mort d'au moins 75 civils. La société civile plaide pour que des mesures soient prises pour permettre aux élèves finalistes de ces écoles de passer les épreuves nationales. L'invité de ce midi est Mike Limbuko, chargé de la sécurité et du système des aliments à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. À l'occasion de la Journée internationale de la sécurité des aliments, célébrée le 7 juin de chaque année, il retrace quelques propositions et actions à mener pour faire avancer les domaines de la sûreté et sécurité alimentaire en RDC. Bonjour à tous. Le gouvernement souminois est attendu ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale où il va se présenter tout à l'heure pour défendre son programme en vue de son investiture. Nous allons joindre notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale, Michel Kifinda. Bonjour Michel Kifinda.
Bonjour Patience. En ce moment, le Palais du Peuple est fortement envahi par des Congolais venus de partout pour soutenir le nouveau gouvernement qui sera bientôt investi. Le hall est mondé des militants, sympathisants, jusque dehors du côté station Cohydro. Partout là-bas, il y a un monde fou. À l'intérieur même de la salle de congrès, il n'y a plus de place pour l'assistance, y compris à l'esplanade, tout est occupé. Il ne reste que quelques places pour accueillir les députés nationaux, mais aussi les officiels, notamment les membres du gouvernement et les autres autorités du pays qui assisteront à cette investiture.
Michel, dis-nous, comment va se dérouler la cérémonie d'investiture du gouvernement ?
Alors, la cérémonie de l'investiture va se dérouler en deux temps. Le premier temps sera marqué par les discours de la première ministre qui va résumer en fait le programme du gouvernement qui est développé en 74 pages. Et c'est un programme qui est axé sur 6 piliers qui rejoignent les 6 promesses du chef de l'État au moment de la campagne électorale. Et après cette phase de présentation du programme viendra la phase du débat. Et le débat sera très long parce que chaque regroupement politique aura le temps de poser des questions à la première ministre et ça peut aller même jusqu'à 21h, 22h, 23h. En fait, les débats s'arrêtent quand le dernier intervenant prend la parole. Après, la première ministre aura la liberté soit de répondre sur le banc ou alors de demander une dérogation de 24 heures pour revenir demain et apporter toutes les réponses aux questions des députés. Et ce n'est qu'après les réponses de la première ministre que nous pouvons passer à l'étape de l'investiture proprement dite du gouvernement. Voilà.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Et puis, au moins 43% des Congolais sondés jugent positif le bilan du chef de l'État Félix Tshisekedi pendant les 100 premiers jours de son second mandat. Ce chiffre émane de l'Institut Bercy, dont une copie est parvenue ce lundi à Radio Okapi. Comparativement aux premiers 100 jours de son premier mandat, le chef de l'État a vu la cote de son bilan passer de 62 à 42%, soit 19%. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Vainqueur de la dernière présidentielle, Félix Tshisekedi n'a pas gardé intacte la cote de son bilan durant les 100 premiers jours de son second mandat. Selon l'Institut Bercy, seuls 43% des Congolais interrogés disaient être contents de la manière dont le pays est géré depuis le début de ses quinquennats. Entre-temps, note cette organisation, au moins 62% des Congolais donnent la chance à la première ministre Judith Suminois de réussir son mandat. Et 43% des Congolais interrogés recommandent à la chef du gouvernement d'améliorer la vie sociale Sénégal, alors que 19 autres pourcents disent attendre de son équipe la restauration de la paix et sécurité dans l'est du pays. L'Institut Bercy fait également savoir que 8% de la population recommande à Judith Suminwa de stabiliser les taux d'échange, alors que 5 autres pourcents plaident pour la création d'emplois et la construction des routes à travers la RDC. Ce nouveau sondage de l'Institut Bercy vient d'être publié après celui du groupe d'études sur le Congo et l'Institut de recherche Ebouteli, qui révélait que près de 50% des Congolais saluaient la gestion du pays depuis janvier dernier.
Au Nord Kivu, deux filles âgées de 12 et 13 ans ont été blessées par des bombes lancées lundi après-midi par les rebelles du M23 à Kanyabayonga. Des sources locales rapportent qu'au moins deux obus sont tombés dans les quartiers de Mugola. Les blessés sont admis dans une structure sanitaire locale. Depuis une semaine, au moins 10 bombes lancées par les rebelles du M23 sont tombées à Kanyabayonga, où l'armée et les rebelles se battent depuis 10 jours pour le contrôle de cette commune stratégique du territoire de Lubero, toujours aux mains de FRDC. Pendant ce temps, dans les territoires de Beni, au moins 40 écoles primaires et secondaires ne fonctionnent plus depuis 8 jours dans les groupements de Bassoamadiwe. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'est après les dernières attaques attribuées aux ADF dans la zone qui ont occasionné la mort d'au moins 75 civils. Conséquence, plusieurs élèves se sont déplacés, notamment des finalistes qui doivent passer l'examen d'État et les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. La société civile plaide pour que les mesures soient prises pour leur permettre de passer ces examens. Marc Marofimbo pour les détails.
Elles sont 15 écoles secondaires et 25 écoles primaires de Kantine, Mabalako, Visikimambombo et Irango qui ne fonctionnent plus depuis 8 jours. Les élèves de ces écoles se sont déplacés avec leurs familles vers des milieux jugés sécurisés après les dernières attaques des ADF dans la région. Parmi eux, des finalistes qui doivent passer l'examen d'État et le test national de sélection et de rotation scolaire et professionnelle TENASOP. La société civile du groupement Bassoamadiwe dit s'inquiéter de leur situation. Justin Kavalami est son président.
Nous sommes en train de demander auprès des autorités, chacune selon ses compétences, de prendre aussi des mesures de clémence pour voir comment on peut même admettre se déplacer élèves concernés par ces épreuves. Par exemple, ceux qui sont à Mangina, qu'ils puissent être admis dans les centres qui sont à Mangina, ceux qui sont à Beni, qu'on fasse autant. C'est-à-dire que tout élève qui a fui les Madiwe qui est concerné par ces épreuves, nous supplions le gouvernement que l'on puisse adopter une mesure d'admission, que ces élèves puissent passer ces mêmes épreuves dans leur milieu d'origine.
Dans son communiqué rendu public ce mardi à Beni, le chef de la province éducationnelle Nord Kivu 2 instruit le chef des sous-divisions de sa juridiction de recevoir les élèves déplacés candidats au TENASOP et à l'examen d'État. Ces élèves déplacés devraient passer les examens dans les centres les plus proches. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, près de 2 mois depuis l'occupation de la région minière de Rubaya en territoire de Masisi par les rebelles du M23, ces derniers ont installé progressivement une administration parallèle et un contrôle total de l'exploitation minière dans la région. Plusieurs sources locales affirment que la vie socio-économique se déroule normalement et les activités minières s'intensifient plus que par le passé. Et cela dans les villages des 4 groupements de la chefferie des Baoundé qu'occupent les rebelles du M23, à savoir les groupements des Kibabi, Matanda, Mufuni Karuba et Oufamandou Premier déplorent plusieurs sources.
Nos sources à Rubaya affirment qu'il s'observe une forte présence de la police parallèle habillée en tenue bleue et déployée dans toute la région. Ces éléments ont pour rôle de surveiller les infractions de la population, faire exécuter les travaux forcés sur le plan sécuritaire. Ce sont les militaires rebelles qui assurent la sécurité sur les grands axes mais aussi aux barrières pour contrôler la circulation, les paiements des taxes et autres. En outre, les rebelles du M23 ont installé une administration minière parallèle ayant pour rôle de gérer les activités de production minière dans au moins une dizaine de sites. C'est entre autres les sites de Luhoho, Kalindi, Rukaza, Esembi, Nyagisenyi et bien d'autres. Les activités minières ont attiré un grand nombre de jeunes, femmes et enfants, constatent nos sources. Actuellement, un creuseur s'est fait payer 30 000 francs par jour au lieu de 10 000 francs par jour par les passés. Toute cette production est achetée par des négociants venus directement du Rwanda et qui les achemineraient via Kibumba, dénonce le témoignage. Les négociants achèteraient les kilos du coltan à 3 $, rapportent nos sources. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Direction province du Haut-Katanga, la vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province salue le transfert des enfants délinquants de Lubumbashi à Kanyama KCC. Pour Liliane Komba, ces enfants sont auteurs de plusieurs forfaits, dont les viols sur les filles, membres de leur groupe, mais aussi sur les femmes mariées qui tombent dans leur filet. Pour ceux qui en seraient les auteurs, notamment les adultes, l'élu de Kambove plaide pour que la justice s'en saisisse. On écoute Liliane Komba, vice-présidente de l'Assemblée nationale provinciale du Haut-Katanga, au micro de Jean Gandou.
La gouvernance politique sécuritaire épée a enregistré au cours de cette année 64 cas de viol, dont 36 viols contre les filles en situation difficile et membres de leur groupe, 28 cas de personnes à leur passage dans leur zone. Ils ont enregistré aussi 19 cas de viol collectif auprès des personnes mariées. Le seul souci était que ces enfants soient amenés à Kanyamakasese pour une réinsertion. Pour les adultes qui commettent les viols, que ces personnes soient jugées, il y a des parents qui viennent aussi réclamer, nonobstant qu'il y a des petits dérapages, mais si on identifie, on peut relâcher. Mais s'il s'avère que les parents là avaient abandonné sciemment leurs enfants et qu'aujourd'hui, à la montée vers Kanyama Kasese, ils viennent réclamer, il faut quand même que ces parents soient punis parce que c'est l'abandon des enfants qui est punissable. Tous les jours ici, ces enfants dérangent au coin des avenues, la nuit, ils fument du chanvre, c'est tant d'autres. Ils font des comportements qui sont antisociaux et très dégradants. Ils tabassent les gens, ils opèrent aussi avec des machettes, voyez-vous.
Au sud Kivu, un mouvement inhabituel a été observé ce mardi devant le bureau de la maison des communications RTL à Bukavu. Les consommateurs regroupés au sein des comités locaux de gouvernance participative contestent la qualité de service que RTL offre à ses abonnés. Le mouvement de sit-in d'au moins une heure n'a pas perturbé le bon déroulement du travail. Jean Kassami nous en fait le point.
Dans un mémorandum remis à RTL par les manifestants, il est stipulé que les abonnés sont privés du réseau depuis maintenant 5 jours. Maître Fausté Batumike, coordonnateur des comités locaux de gouvernance participative.
Sans aucun motif, voilà.
Les réseaux des consommateurs de services au Congo demandent à RTL de rétablir les abonnés dans leurs droits. Mise au cabaret.
Il y a même des arnaqueurs qui opèrent librement sur ces réseaux de télécommunications. Mais également, les tarifs appliqués en RD Congo, c'est un tarif vertigineux. Alors nous, on a l'impression qu'il s'agit d'une escroquerie organisée, non seulement vis-à-vis d'RTL, mais également vis-à-vis de nos autorités.
Les dispositifs sécuritaires des policiers postés devant la porte d'entrée des bureaux RTL n'a pas entravé la liberté de mouvement ni d'expression des manifestants qui, finalement, ont pris langue avec les responsables de RTL Bukavu qui sont restés injoignables pour leur propre version des faits. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En province du Kwilu, la voirie urbaine de la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province, est dans un état de délabrement très avancé et complique la circulation des usagers. Ce constat amer est fait par plusieurs habitants et aussi par les cadres des concertations urbaines de la société civile qui attribuent cette situation au manque d'entretien régulier par l'Office des voiries et drainage, OVD. Son secrétaire, Martin Guizebou, exige à cette société de justifier les fonds reçus pour les travaux de réhabilitation des routes. Pour l'OVD, des Kwilu, ces travaux restent inachevés faute de financement. Les points avec Irène Mbomalzolo.
Dans un entretien lundi avec Radio Okapi, Martin Guizebou, secrétaire de la société civile de la ville de Bandundu, qui s'est dit préoccupé, décrit l'état de dégradation actuelle des artères principales de cette ville.
L'avarie urbaine de la ville de Bandundu est en danger. Toute la ville, même les tronçons, là où se trouve la résidence chef de l'État. Où en sommes-nous? L'avenue Kwango, qui traverse la banque centrale, qui va de l'ISC vers l'Uniband. L'état de la route est vraiment délabré. Il y a les nids de poules, il y a de la boue, la population. Soit les transporteurs n'ont pas accès pour traverser là-bas.
Martin Guizebou invite l'Office des voiries et drainage, OVD, à justifier les fonds reçus pour les travaux de rénovation de la voirie de Bandundu lancée en 2023, mais qui sont aux arrêts depuis plusieurs mois.
Ça, je pense qu'il faut une question orale au responsable de l'OVD pour qu'il donne des explications par rapport à l'appui qu'il a reçu.
De son côté, le directeur provincial de l'OVD Kwilu justifie cette situation par les manques de financement afin de permettre à sa société de poursuivre les travaux déjà entamés. L'ingénieur Bruno Simba.
Le fondeur qui a financé les travaux l'a payé qui la moitié des fonds. Alors, nous, on va finir les travaux comment?
La société civile de Bandundu redoute les pires lors de la saison pluvieuse prochaine. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, suspension ce lundi des lotissements du terrain de l'école primaire Inga dans la commune de Bipemba. Cette décision a été prise par les conseillers communaux de Bipemba pour s'enquérir de la situation et préserver la paix. Des explications avec Esther Ndalafina.
La suspension des travaux sur le terrain de l'école primaire Inga est intervenue ce lundi soir après une réunion des conseillers communaux de la commune de Bipemba. Cela pour permettre aux décideurs de s'enquérir de ces dossiers. C'est depuis la semaine dernière que quelques agents de la division provinciale de l'urbanisme et quelques autochtones appelés Bakwanga Benakumbi, munis d'un ordre d'émission, se sont présentés dans la cour de l'EP Inga pour les lotissements. S'en est suivi une altercation avec les élèves de cette école, comme le confirme ici le chef de quartier.
Ils ont commencé à le dire, les enfants se sont révoltés. On a essayé d'intervenir, mais la tension était très tendue. Et moi-même, le chef de quartier, j'étais victime. Il y a eu des jeux de pierre vraiment lancés sur moi aussi.
Ce mardi, le maire de Mbujimayi a réuni les parties citées dans ce dossier de lotissement pour être éclairé. Dans une émission diffusée ce mardi sur un média local, Sami Mwamba Njibu, président de l'ASBEL Birpe, Bakwa Nyangwila, uni pour la reconstruction et la prospérité, dit ne pas connaître les personnes qui sont allées lotir la concession de cette école. Signalons que d'autres lotissements jugés illégaux se multiplient ces derniers temps en Mbujimayi sur plusieurs domaines publics de l'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce mardi que les bombardements russes sur son infrastructure énergétique avaient conduit à diviser par deux la production électrique de l'Ukraine depuis l'hiver. Les frappes des missiles et des drones russes ont déjà détruit 9 gigawatts de capacité. Les pics de consommation d'électricité de l'hiver dernier étaient de 18 gigawatts. La moitié n'existe donc pas aujourd'hui, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'un déplacement à Berlin.
L'invité.
Se préparer à l'inattendu, c'est le thème au centre de la Journée internationale de la sécurité des aliments célébrée le 7 juin de chaque année. À cette occasion, Mike Limbuko, le chargé de la sécurité et du système des aliments à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, retrace quelques propositions et actions menées pour faire avancer les domaines de la sûreté et sécurité alimentaire en RDC. Mike Limbuko s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Mike Limbuko, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff.
Nous célébrons la Journée internationale de la sécurité des aliments. Vous, en tant que FAO, qu'allure de cette journée?
Merci beaucoup pour votre question. En effet, le 7 juin 2024, nous célébrons pour la 6e fois la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et pour cette 6e célébration, les thèmes retenus au niveau global à la FAO et l'OMS souligne l'importance d'être préparé aux incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments, que ces derniers soient bénins ou graves. Parce qu'au fait, au niveau global, hein, on note qu'il y a à peu près 1 600 000 personnes qui tombent malades pour avoir consommé des aliments qui sont impropres à la consommation. On a à peu près 340 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour pour des raisons de maladies d'origine alimentaire pourtant évitables. Et il y a à peu près 200 maladies qui sont causées par des aliments impropres à la consommation. Elles vont des simples diarrhées jusqu'au cancer. Donc, vous comprenez bien avec moi que la sûreté, la sécurité sanitaire des aliments sont des facteurs clés, hein, pour le développement agricole et pour la promotion de la sécurité alimentaire et une bonne nutrition des populations. Contribuent à lutter non seulement contre les pertes et les gaspillages alimentaires, elles sont essentielles pour le commerce de denrées alimentaires.
Alors dans ces cas, Monsieur Mike, quelles sont les propositions ou les actions menées par la FAO pour améliorer la santé des aliments en RDC?
Comme vous le savez, hein, notre mandat, c'est d'appuyer les pays dans le développement agricole et la promotion de la sécurité alimentaire et une bonne nutrition des populations. Et à ce titre, la sûreté, la sécurité sanitaire des aliments sont des aspects qui nous intéressent au plus haut point, puisqu'elles sont essentielles pour le développement agricole de façon générale et pour le commerce des denrées alimentaires. Pour le cas spécifique de la RDC, on constate quand même qu'il y a une certaine culture limitée hein, en termes de sécurité sanitaire des aliments. Et on note aussi hein, que nos chaînes d'approvisionnement alimentaire sont peu fiables et cela limite l'essor du secteur agroalimentaire au niveau national. Et ça se traduit hein, concrètement par des pertes financières pour les opérateurs agricoles lorsque ces derniers ne savent pas rencontrer les exigences du marché. Dans ce sens, la FAO avait mené une réflexion avec le ministère de l'Agriculture et dont les conclusions faisaient état de l'obsolescence hein, et de la vétusté des textes juridiques actuels qui régissent ces domaines. Donc, la plupart des textes sont vraiment en déphasage avec les réalités actuelles de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des surcroît de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avions accompagné le pays à se doter d'une alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire dans l'optique hein, de soutenir par une législation efficace les engagements pris par le pays pour lutter contre la faim. Là, on peut citer les engagements des Malabo, on peut citer les objectifs de développement durable, mais aussi hein, toutes les autres déclarations internationales et régionales que le pays a eu à ratifier. Nous restons convaincus que, de par leur mandat, les parlementaires peuvent aider à façonner les politiques et établir les cadres législatifs appropriés pour garantir l'accès à une alimentation saine et nutritive, et l'allocation des ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir une alimentation saine, issue des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots sur ce qu'ont été les propositions, les actions concrètes menées par la FAO pour faire avancer les domaines de la sûreté et la sécurité sanitaire des aliments en RDC.
La FAO a-t-elle un message à passer à la population congolaise?
Juste un seul message. Seul, je dirais, les normes et les directives d'hygiène alimentaire sauvent vraiment des vies. Voilà le message que je peux passer.
Monsieur Michael Limbuko, merci.
Merci beaucoup à vous.
Et c'est la fin de cette session de vos nouvelles des midi sur Radio Capi, mise en onde par Deps Vita, supervisée et coordonnée par Élisée Chikota Chivueta et Martin Sebujangwe. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.